0-0, vous êtes connecté sur Move.
Move 13h-13h30.
Move 13 Actu.
Alex Nassar.
Info, culture, société, sport, tous les jours de 13h à 13h30 sur Move. Move 13 Actu, toute l'actu de ce mardi 27 mars. Comment ça va la team Move 13 Actu?
Ça va,
vous avez la forme, tout va bien?
Oui.
Move 13 Actu en direct à la radio, bien sûr, mais aussi en vidéo sur Facebook Live. Connectez-vous sur la page officielle Move Radio. Au programme aujourd'hui, Lise, encore des embrouilles pour Facebook.
Ouais, sale période hein, pour Mark Zuckerberg, déjà empêtré dans le scandale Cambridge Analytica. Le patron de Facebook doit répondre à une nouvelle polémique qui concerne cette fois le stockage des appels et des SMS de ses clients. Je vous explique tout ça.
Ce sera dans le focus du jour. Guéran, comme tous les mardis, toutes les infos du terroir, parce que nos régions ont du talent.
Oui, je vous livre ça pêle-mêle. On va parler football, guitare sèche, Netflix qui est banni de la Côte d'Azur,
ouais,
et d'un serial killer de loups franc-comtois, et aussi des ravages de l'alcool dans le Haut-Médoc, vu que des Américains veulent racheter le club de Bordeaux.
Oui, c'est pêle-mêle. Hein.
Oui,
ce sera évidemment dans la Zumbactu régionale. Du sport aussi avec Greg. Aujourd'hui sort le fameux livre qui fait trembler le PSG, mais aussi un peu le journal L'Équipe.
C'est vrai, PSG révélation d'une révolution, c'est ce bouquin qui est déjà numéro 1 des ventes sur internet alors qu'il ne sort qu'aujourd'hui. Neymar, Mbappé, Emery, les coulisses du club parisien, tout est passé en revue, en cartonnant aussi le journal L'Équipe au passage.
Oui, on va beaucoup en parler de ce bouquin aujourd'hui, notamment avec notre invité qui est là, tapis dans l'ombre. Et puis Sonia sera là aussi, Sonia qui nous emmènera à Paris au Théâtre Dunois, un théâtre qui propose des pièces écrites et conçues spécialement pour les collégiens et les lycéens. C'est le cas de la pièce Pourquoi les riches, point d'interrogation, à l'affiche en ce moment. Sonia a rencontré l'auteur de la pièce et ses comédiens. Reportage dans Move 13 Actu.
Alex Nassar.
Move 13 Actu.
Un invité avec nous aujourd'hui, Alexandre Coupé. Bienvenue dans Move 13 Actu.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Tu es co-auteur d'un livre attendu depuis plusieurs mois. Ça s'appelle PSG, révélation d'une révolution. C'est dispo aujourd'hui aux éditions Amphora. 475 pages intégralement dédiées à la nouvelle dimension prise par le PSG suite à la fameuse remontada du 8 mars 2017, la défaite 6 buts à 1 face au Barça. On va revenir dans le détail sur le contenu du livre un peu plus tard dans l'émission. Il y a beaucoup de choses à dire, mais avant, j'ai une première question. Le livre est signé Paris United. Alors, Paris United, c'est un collectif, c'est ça ?
Ouais, c'est un collectif. En fait, au départ, c'est un peu un concours de circonstances, parce que si tu veux, il y a deux personnes qui se sont rencontrées, qui disposaient d'informations sur le PSG. Et puis, cette information-là a fait le buzz. Et puis après, de fil en aiguille, le groupe s'est agrandi. Et puis au final, avec le mercato du PSG en 2017, avec Neymar et Mbappé, ça a fait un petit peu le buzz. Et puis on a posté des articles. Et à partir de là, un éditeur nous a contacté pour faire un livre. Et
ouais, voilà. Donc c'est allé très très vite. Donc Paris United, c'est un collectif de fans du PSG. De fans du PSG. C'est aussi un compte Twitter. Combien de followers? 70 000, c'est ça?
Ouais, 70 000. Ouais.
Alors qu'il y a pas si longtemps, vous étiez à pas grand chose, hein, il faut le dire. Et donc l'été dernier, il s'est passé un truc assez fou, c'est que Paris United, donc le compte Twitter, enfin ton équipe en tout cas, a annoncé en premier les arrivées de presque tous les joueurs au PSG. Dani Alves, Neymar, Mbappé, avant les médias habituels, donc L'Équipe, Le Parisien ou la presse internationale. C'est quoi vos sources? Je sais que tu vas pas les balancer comme ça, mais
t'imagines bien que je vais pas répondre à cette question, vieux. Mais bon,
j'ai au moins envie.
Il faut la poser quand même.
Hein. Je suis obligé de la poser parce que vous annoncez quand même des très très gros transferts. Habituellement, il faut des années en tant que journaliste pour créer des liens avec les agents, avec les présidents de clubs, les entraîneurs. Oui, Guérin.
À L'Équipe, il leur faut des années pour donner des informations pas vraies aussi.
On appelle ça des fake news.
Donc, pas de source, bien sûr. Il y en a un qui est le neveu de Nasser, c'est un truc comme ça?
Non,
dans la team Paris United?
Non, j'ai le regret de te dire que non, malheureusement, on dispose de bien d'autres sources que ça.
Parce que toi, tu es journaliste et auteur, mais en revanche, tout le reste de l'équipe, c'est des amateurs. Ils ont absolument aucun lien avec le monde du football ou avec le PSG.
Non, tout à fait. Ils ont un métier à côté, ils ont une activité professionnelle. Donc, pour l'instant, c'est plutôt à titre de leur passion qu'ils font ça. Voilà.
Guérin.
Donc, s'ils ont une activité professionnelle, ça peut pas être Atem Ben Arfa. Non, parce qu'il n'a pas d'activité techniquement.
Greg.
C'est sûr que les révélations, elles viennent de gens qui sont forcément haut placés. C'est-à-dire que c'est pas le gardien du parking ou.
Ah oui, non, c'est sûr. Oui.
Voilà, c'est des mecs qui sont franchement haut placés, vos sources. Ça vient du club, de l'intérieur.
Non, ça je peux pas te le dire comme ça, mais effectivement, tu disposes de sous. En fait, on a plusieurs sources. Et avec le temps, le fait qu'on soit un média partisan a fait que le réseau s'est augmenté. Donc, Après, tu disposes de toujours plus de toujours plus de sources et voilà.
Donc, que vous recoupez.
Bah oui, qu'on recoupe à chaque fois. Ouais. Toute information qui est sortie, vraiment, c'est si tu veux, chaque information est vérifiée et recoupée au moins 3 fois.
D'accord.
Donc il y a pas de
vrai travail de journaliste.
Ah oui,
en
oui
amont,
tout à
quoi.
Fait. On se limite même en termes d'infos. Sinon, on pourrait sortir les infos tous les jours.
Ouais. Mais c'est vrai qu'avant Paris United, ça a toujours été la jungle hein, sur Internet. Mm-hmm. Tout le monde sur Twitter, notamment, se prétend être agent
source,
de footballeur.
Agent Brian,
le fameux, et annonce des signatures totalement improbables et infondées. Ouais. Paris United faisait partie de tous ces comptes Twitter pendant un moment. Ouais. Et mais très rapidement, vous êtes démarqué de tous ces autres sites qui balancent de la fake news pour des choses vraiment très sûres et qui sont vérifiées. Parce que là, tout est vérifié. Willis, tu voulais poser une question.
Oui, parce que quand tu dis médias partisans, est-ce que ça veut dire que du coup, vos sources préfèrent en fait vous balancer les infos
exactement.
À vous qu'à l'équipe ou à ce genre de journaux.
Exactement.
Ils font le choix de le dire plutôt à vous.
Oui, exactement, donc, par exemple.
Quand ils ont vu que vous étiez très bien informé, des gens vous ont donné des infos en plus.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
C'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais.
Par exemple, quels gens
mais qui force. Tout à l'heure, on parlait de l'équipe qui compose Paris United. Tu disais que c'était une passion pour la plupart. Vous avez des métiers à côté. Vous avez d'autres activités.
Tout à fait, oui.
Ouais, donc c'est vraiment un truc qui est fait sur le temps libre, quoi. Un hobby.
Ah oui. Pour l'instant, c'est vraiment un travail qui est bénévole. Voilà, on fait pas ça pour le. On n'a pas fait ce livre pour. On n'est pas à la recherche du buzz, si tu veux.
D'accord.
Donc sinon, on aurait fait un ouvrage qui est totalement différent. Qui aurait été moins épais, qui aurait été plus trash, et c'est pas du tout notre volonté. Notre volonté, c'est que le Paris Saint-Germain réussisse.
Vous avez reçu des coups de pression de la part du PSG, notamment, quand vous avez commencé à balancer des infos qui sont vérifiées.
Oui. Bah après, le PSG, officiellement, ils vont pas faire de communication sur le livre.
D'accord.
Donc
sans parler du livre, au moment où vous annoncez Neymar, Mbappé, Dani Alves, même Krikoviak, c'était annoncé directement. Est-ce que le PSG à ce moment-là vous contacte ou alors vous fait savoir qu'ils sont pas hyper contents?
Oui, ils sont pas hyper contents parce que c'est normal. Le directeur de la communication est obligé de gérer son club, donc forcément, il a pas toute la maîtrise aujourd'hui avec cette espèce de nouveau média qui a des informations qui entre guillemets qui est pas normal.
Ouais, ils ont pas du tout la main en plus sur ces infos.
Mais surtout qu'en plus en temps de mercato, ce qu'il y a c'est qu'on parle de fake news, mais en fait en temps de mercato, personne ne sait rien. C'est un grand jeu de bluff. Tout le monde balance des trucs. Il y a même des journalistes qui pensent avoir vraiment une info, qui la balancent. La minute d'après, en fait, c'est nié par la réalité parce qu'en fait,
Là, en ce moment, on le voit bien avec les rumeurs d'entraîneurs.
Pour le nouvel entraîneur,
c'est tous les jours, c'est un entraîneur différent qui est annoncé au PSG selon qu'on s'adresse à telle ou telle source.
Exactement.
Donc c'est très amusant.
Mais après, ça, c'est aussi dû parce que le PSG y a une guerre d'influence au club qui fait que si tu veux.
Oui, si on parle avec un proche de Nasser, il va dire un nom.
Exactement.
Avec un proche d'un autre gars, ça va être un autre nom, donc c'est compliqué. Donc, des pressions de la part du PSG, pas vraiment. Et de la part des autres médias, comment ils ont vécu votre arrivée quand l'équipe voit que vous balancez la signature de Neymar avant eux, ils réagissent comment? Est-ce qu'ils essaient d'entrer en contact avec vous, eux aussi?
Pareil, il n'y a pas vraiment de communication avec eux. Pour l'instant, je pense qu'ils nous regardent un petit peu comme une sorte d'ovni, si tu veux.
Voilà. D'accord. Et vous êtes totalement indépendant vis-à-vis du PSG?
Ah oui, totalement. Bah, le livre le confirme. Malheureusement, le PSG est critiquable dans bien des points, donc c'est pas le monde des bisounours. Donc évidemment, on le critique en large et en travers, mais toujours avec une volonté de bienveillance par rapport à eux.
Et avec les grands médias, d'accord, mais avec les autres médias partisans, parce que vous n'êtes pas le seul média partisan PSG qui est né sur Twitter. Il y a Culture PSG,
il y a plein de sites, surtout les clubs français notamment.
Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous êtes concurrent? Est-ce que vous balancez des DM dégueux?
Non, Culture PSG travaille vraiment très bien, donc non, on n'est pas du tout concurrent avec eux. Au contraire, on voit ça comme un bon signe qui est de plus en plus de médias partisans sur le PSG.
Alors on l'a dit, tout le monde chez Paris United est fan du PSG. Est-ce que c'est pas trop difficile justement de rester objectif tout en étant partisan?
C'est assez
nouveau en France, ça.
Ouais, c'est une bonne question. On essaye d'être honnête. Voilà, on essaye d'être honnête le plus possible. Après, l'objectivité totale, c'est impossible à demander. Mais on essaie d'être honnête et je pense que c'est ce qu'on a fait avec le livre.
Parce que clairement, votre envie, c'est que le PSG réussisse. Hein.
Ah oui, tout à fait.
Pour les dézinguer, quoi.
Le but, c'est vraiment qu'il remporte la Ligue des Champions, oui.
Ouais.
Non, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre en lisant le bouquin, c'est-à-dire que vous revendiquez pas journaliste, le travail, même si ce que vous faites est un travail journalistique, mais vous êtes totalement partisan. Enfin, faut pas s'attendre à une neutralité de la part de Paris United. Ce sont des supporters du PSG qui disent des vérités, qui sont honnêtes, mais qui ont envie que le PSG gagne la Ligue des Champions et ait des bons résultats, contrairement à à des journaux comme l'Équipe ou le Parisien où on dit ils doivent être neutres.
Ils se doivent une certaine forme de neutralité parce que c'est des médias nationaux. On en parlera de toute façon quand on évoquera le livre dans le détail. Guérin.
Bah oui, non, mais en plus là, on sait où on va parce que ça s'appelle Paris United.
Oui, voilà.
Donc, non, mais tu vois, il y a pas de mensonge. Ça s'appelle pas Manchester United. En fait, ça, on balance.
D'ailleurs, vous avez été obligé de changer le nom. Au début, c'était pas Paris United.
Oui, parce que le PSG a.
C'était quoi au début? C'était PSG United d'ailleurs.
PSG United. Les trois lettres. La marque PSG, si tu veux, appartient au PSG, donc. On a été obligé de changer de nom.
Et en revanche, c'est pas un problème pour le titre du livre, qui s'appelle bien PSG, Révélation d'une révolution.
Oui, ça pose pas de problème, parce que c'est la couverture, donc voilà. Ça pose problème si jamais c'est le nom de ton groupe à toi.
Ils vous ont demandé gentiment de changer de nom, quoi.
Tout à fait.
D'accord, très bien. Tu restes avec nous, Alexandre, on va revenir sur le contenu du livre PSG, Révélation d'une révolution. Beaucoup d'infos sur la fameuse remontada, sur les transferts de Neymar et de Mbappé, sur le journal L'Équipe aussi. Ce sera dans une dizaine de minutes dans Move 13 Actu. 13-11 sur Move.
Move 13 Actu.
Jusqu'à 13h30. Move.
Le focus de Move 13 Actu. Tous les jours, un sujet a priori compliqué, expliqué en seulement 3 minutes. Aujourd'hui, Liz, un nouveau scandale pour Facebook. Et qu'est-ce qui se passe cette fois?
Eh bien, figure-toi que Facebook collecte tes SMS et tes appels téléphoniques. Alors, pas les tiens, hein, Nassar, parce que t'as eu l'intelligence de quitter le réseau social.
Oui, j'ai pu, moi.
Voilà, mais ceux de millions d'utilisateurs potentiellement.
Mais comment on a découvert ça déjà?
Alors, grâce à un certain Dylan McKay, un jeune développeur néo-zélandais, qui a téléchargé ses archives de données personnelles.
D'accord.
Il a alors découvert un tableau répertoriant ses appels passés, ses SMS envoyés, les contacts de son téléphone, même ceux qu'il avait supprimés de son répertoire.
C'est flippant un peu.
Un peu.
C'est flippant. Et comment il a fait pour accéder à ses archives?
En fait, c'est hyper simple et on peut tous le faire. Il suffit d'aller sur paramètres en haut à droite de sa page, juste au-dessus des connexions. Tu arrives sur les paramètres de ton compte et là, on te propose de télécharger une copie de tes données Facebook. Au bout d'une quinzaine de minutes environ, tu reçois un fichier zip.
Et toi, tu l'as fait ce matin? Ouais. Par curiosité, ça donne quoi?
Alors moi, je suis retombée sur des messages vocaux assez énigmatiques. Je me rappelais même pas qu'on pouvait en faire. Ouais. Des gifs, des photos, des vidéos que je me souviens pas avoir postées et des tonnes de messages inintéressants où il est beaucoup question de caler des apéros. Sinon, j'ai même l'historique de mes pokes.
C'est passionnant, une vie numérique bien remplie. Hein,
très rempli.
Greg, tu l'as fait aussi, toi, t'as
regardé
tes archives?
Ouais, mais j'ai évité de tout ouvrir parce que vous étiez à côté. Donc j'ai pas envie qu'il y ait des trucs qui arrivent sur l'écran et que je ne maîtrise pas.
Guérin.
Non, mais tout l'historique de Greg a été détruit dans un bain d'acide.
Bon, en tout cas, toi, Liz, dans tes archives Facebook, pas de traces de SMS ni de coup de téléphone en revanche.
Non, d'abord parce que j'ai jamais donné mon 06 à Facebook, même s'il a souvent insisté pour que je le fasse. Et puis aussi parce que j'ai un iPhone. Ah. L'archivage des communications, en fait, concerne certains utilisateurs d'Android qui n'ont pas désactivé l'option import de contact ou qui ont choisi Facebook Messenger comme messagerie par défaut.
D'accord.
Sachant que ces données n'auraient été collectées qu'entre 2015 et 2017.
Oh, bah ça va alors. Ouais. C'est pas très grave. C'est que deux ans de données, c'est pas très important. Non, en vrai, ça reste quand même scandaleux, cette histoire.
Ouais, Facebook a dû s'en expliquer. Non, le contenu des appels et des SMS n'a jamais été enregistré. Les infos perso sont stockées de façon sécurisée et en aucun cas, elles ne sont partagées ou vendues.
C'est cela, oui.
Oui, c'est cela.
Sachant que depuis le scandale Cambridge Analytica, plus personne n'y croit. Le régulateur américain du commerce, la FTC, a carrément lancé une enquête sur Facebook pour s'assurer que la protection de la vie privée de ses utilisateurs est bien respectée.
Ouais.
Si c'est pas le cas, le réseau social s'expose à de très lourdes amendes, 40 000 dollars par infraction.
Alors, c'est pas drôle, mais ça en devient drôle, je trouve, parce que c'est tous les jours, il y a un scandale comme ça autour de Facebook ou d'un réseau social. Alors, je suis pas sûr que des amendes aussi lourdes soient-elles fassent peur à Zuckerberg. Qui s'est barré de Facebook? C'est la question que je dois poser aujourd'hui.
Bah, c'est ça. Non, je me suis pas barré de Facebook.
Pas encore?
Bah non.
T'es sur le point 2? T'y réfléchis?
Mais non, mais en fait, le truc, c'est que moi je m'en sers qu'un usage professionnel et c'est quand même pratique, ne serait-ce que, tu vois, pour partager le Move 13 Actu sur Facebook Live.
Ouais.
Ben voilà.
Bah ouais, non, mais je comprends.
Pour ça, c'est.
Guérin.
Non, mais enfin, alors déjà, moi pareil. C'est-à-dire que déjà, c'est Liz qui gère mon Facebook.
Oui, voilà.
Moi, je suis jamais.
C'est vrai.
Non, mais en fait, en vrai, Facebook, ils sont. Enfin, ce qui importe, c'est même pas forcément que les gens partent, c'est que les gens restent dessus. C'est ça en fait qui fait gagner de l'argent.
Oui, mais si t'es plus inscrit à Facebook, non, par définition, tu peux pas rester.
Évidemment,
dessus.
Mais si t'as un compte et que tu vas jamais et que tu restes jamais dessus, de toute façon, ils perdront de l'argent quand même.
Ouais.
Et surtout, c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'en fait, là, on parle de Facebook.
Mais tous les sites,
en vrai, ils pompent tout.
Mais pour Facebook, en revanche, les amendes, à mon avis, ils s'en foutent. Ils sont tellement riches que c'est pas un problème pour eux. En revanche, le fait de perdre des utilisateurs et que ça devienne quelque chose de constant pour eux, ça va devenir un problème. En revanche, parce que leur richesse, c'est cette communauté monstrueuse.
Puis c'est les données. Ouais. Enfin, s'ils arrivent pas à les pomper, ils sont dans la merde.
Greg, tu vas te barrer, toi, t'y réfléchis?
Non, franchement, non.
Pour l'instant, non. Tu t'en
fous. Mais moi, en fait, ça me dérange pas qu'on récupère les pages que j'aime, les posts que j'ai mis.
Il est sympa, ce Greg.
Non, mais c'est des trucs publics, donc en fait, je m'en fous. Enfin, j'ai rien à cacher.
Non, mais ça se tient.
Les DM, moi.
Bon, il y a deux, trois DM un peu border.
Non, mais ça, par contre, pour moi, c'est du privé, en fait, les messages privés, du coup.
Donc ça, faut pas que ça sorte.
Bah non, ça reste privé, ça, c'est le délire.
Ah, on l'a dit.
S'il vous plaît.
On l'a dit, on en parle.
On l'avait dit au départ, les gars.
Alexandre, il y a une page Paris United sur Facebook?
Oui, il y a une page Facebook. Ouais.
Et en voyant tout ça, ça te fait pas flipper? Tu te dis pas, peut-être que je vais avoir un jour une info sur, par exemple, le futur coach du PSG et je vais me la faire voler parce que tout est devenu.
Bah, moi, je suis pas fan personnellement des réseaux sociaux. Après.
T'es dessus, toi, à titre personnel?
Non, à titre personnel, non.
Pas de Facebook, pas de Twitter, rien.
Non, mais en fait, c'est ça vos sources. En fait, vous avez.
Voilà.
Hacké les DM de Nasser qui faisait alors Juvi Brand, Rubadrig.
et l'Unima aussi. Bon, on suivra à la suite des aventures de Mark Zuckerberg, qui sera peut-être un jour, je le rappelle, un président des États-Unis. Merci beaucoup, Lys, pour ce focus.
Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont.
Camini avec Marly Gaumont, parce que le mardi, Guérane, la Zumba actu est 100% terre terroir.
Oui, alors on est sur de l'info, très 30 millions d'amis en ce moment, puisque alors, sachez que le dossier saumon de Bayonne remonte à Paris. Alors, si vous voyez un saumon avec un maillot de rugby qui parle comme ça, dans une rivière, faites gaffe, il a l'air vénère. En vrai, je crois. En fait, non. En fait, je crois que c'est une histoire de conflit entre pêcheurs. C'était un article abonné.
Oh.
Donc, j'ai lu, il me restait 76%, donc j'ai pas tout compris au contexte. Je vais donc vous parler d'animaux chelous qui meurent en Franche-Comté, de Francis Lalanne et du Festival de Cannes. Il faut le voir porter.
Ah oui, là, il faut le voir porter. Ce sera dans la Zumbactu régionale. C'est dans quelques instants. Mais d'abord, Greg a une info pour nous, 13-16 sur Move.
Du lundi au vendredi, Move 13 Actu.
Le sachiez-tu de Greg tous les jours, une info totalement inutile. Une info qui ne sert à rien, Alexandre. C'est un peu comme Atem Ben Arfa au PSG.
Voilà.
C'est pour te donner, tu vois, une idée quand même de la puissance de l'info que va balancer Grégo. On t'écoute, Greg.
Alors, on va parler du PSG justement, puisque le 14 février avait lieu le match aller de Ligue des Champions Real PSG. Eh bien, ce match a modifié les horaires du carnaval de Rio.
Ah
ouais, ouais. Alors, vous, le carnaval là-bas, c'est une institution, hein, ouais. Vous le savez, un événement incroyable, ouais. Le concours des écoles de danse de samba de Rio. On en parle dans le monde entier, mais au Brésil, le foot, c'est aussi une religion. Et il y avait tellement de Brésiliens sur le terrain, entre Neymar, Marquinhos, Daniel Alves, Thiago Silva, Casemiro, Marcelo, que le carnaval a décidé d'annoncer son grand gagnant à 15h30 et non pas à 17h30 comme c'était prévu, puisqu'à cette heure-là était diffusé Real PSG sur
incroyable.
Globo.
Incroyable, hallucinant. Ouais. Mais voilà. De toute façon, il y a une passion énorme de la part des Brésiliens pour le PSG. Dans le livre, oui. J'ai découvert qu'il y avait plus de fans brésiliens du PSG sur Facebook que de fans français.
C'est vrai.
Alors après,
c'est un beaucoup plus grand pays. Donc,
bien sûr.
Mais bah, le maillot jaune extérieur, c'est pas pour rien. Hein.
Oui, ouais. C'est vrai. Oui, puis le fait que Neymar soit la star du Brésil a fait que forcément le PSG devient populaire au Brésil.
Encore plus qu'avant.
Encore
davantage. Merci beaucoup Greg pour cette info. Pas si inutile que ça pour une fois.
Ouais. Bravo Greg.
Plus utile que Ben Arfa, je trouve. Ouais. On te retrouve pour le trash talk du jour consacré au livre de Paris United, PSG, révélation d'une révolution.
Ouais, dispo depuis aujourd'hui, déjà numéro 1 des ventes partout sur le net et en rupture de stock chez l'éditeur. Ça raconte avec beaucoup de détails comment le PSG a changé de dimension en signant Neymar et Mbappé l'été dernier. Et on a la chance d'avoir donc un des auteurs avec nous aujourd'hui, Alexandre Coupé.
Ce sera dans le Trash Talk dans quelques instants.
Du lundi au vendredi,
Move 13 Actu, Move
jusqu'à 13h30.
13-18 sur Move, c'est l'heure de la Zumbactu de Guérane avec, comme tous les mardis, les infos les plus chaudes de ta région. C'est la Zumbactu régionale et ça démarre juste après un mot de notre partenaire, bien sûr.
La Zumbactu vous est offerte par Fanta YOLO. 1% d'eau, 298% de sucre, mais on le boit quand même parce que YOLO.
Allez, on commence cette Zumbactu régionale en Picardie à Chambly.
Le 17 avril prochain aura lieu la demi-finale de la Coupe de France entre Chambly et les Herbiers de ouais. Club de National 1, le Petit Poussico, hein, le classico des petits poussettes.
C'est mignon.
Ou bien le Pecnosico.
C'est moins mignon.
Des pecno. Mais ça, c'est quand on est un Parisien aigri depuis un but de Sergi Roberto.
Ça passe un peu.
Passe pas.
Quel scandale.
Bref, pardon. Le vainqueur de ce match entre Chambly et les Herbivores, pas quoi là, ouais. pourrait affronter le PSG en finale.
Ouais.
Et Chambly peut compter sur le soutien indéfectible de leur supporter numéro 1, Francis Lalanne.
Oh non.
Qui leur a fait une chanson de soutien.
Allez Chambly, allez nos joueurs. Non. Allez Chambly.
Voilà, quand on a entendu ça,
on l'a déjà perdu.
Oh merde. Qu'est-ce que c'est voilà. que ça?
Eh ben, c'est une chanson.
C'est terrible, c'est terrifiant, Francis. Il nous manquait pas, hein.
Mais on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie.
Non,
quel
est son métier?
On ne sait pas.
Il est de Chambly, Francis Lalanne?
Non. Mais ah, justement, c'est ça le mystère. Le mystère s'épaissit. J'ai pas enquêté, j'en ai rien à foutre.
J'allais dire on va enquêter, mais non, absolument pas. On continue cette Zumbactu régionale sur la Côte d'Azur.
Pour être plus précis, nous allons à Nice.
Arrêt au port de Nice. 2 minutes d'arrêt.
Puis, de là, nous prenons le bus pour nous rendre à Cannes. La Croisette, le café à 8,50€, le temple du cinéma d'auteur et des liftings ratés en Tunisie corrigés.
mal, avec de l'autobronzant. Eh bien, sachez que le Festival de Cannes a banni Netflix l'an dernier. On se rappelle, deux films produits par Netflix étaient en compétition. Ouais. Il y avait eu polémique. Et ben là, il n'y en aura pas. Si tu t'attendais à voir les gosses de Stranger Things monter les marches en dansant la soca, eh ben ça sera pour cette année.
D'accord. Mais alors, est-ce que l'organisation du festival a expliqué ce choix?
Pourquoi? Oui, le festival considère que Netflix, c'est de la prod télé, vu que ça sort pas au cinéma et que le festival, eux, ils soutiennent les films en salle. Mais la vraie question que ça pose, c'est dans un écosystème cinématographique en pleine mutation, la décision du festival de bannir Netflix ne révèle-t-elle pas en creux la schizophrénie des institutions qui veulent incarner la modernité mais semblent refuser le progrès? Voilà, ça c'est le titre du prochain film des Frères Dardenne. Ça sera très chiant.
Ça va être très très bien, j'ai hâte. On continue en Bourgogne-Franche-Comté avec une sombre affaire animalière.
Nous sommes le 13 mars 2018, dans le département du Doubs, entre les communes du Souillot et de Chafouin. Un peu après Nansou-Sainte-Anne, connue pour la source du Lison. Ça n'a aucune importance dans l'histoire, mais c'est juste parce que Lise Pressac, elle aime bien quand je dis son surnom dans la zone d'actu Lison. Ce jour-là, sur la départementale 72, sur le bas-côté, un automobiliste signale la présence d'un corps sans vie. Cela ressemble à un loup, mais la préfecture n'est pas sûre. Ce serait la première fois qu'un de ces prédateurs serait mort percuté à cet endroit. Pas ici, pas comme ça. Bon sang de bonsoir, le mystère s'épaissit. On ordonne une autopsie. Et là, coup de théâtre. Les résultats sont formels. C'est un loup.
C'est un loup.
Si, si, c'est une espèce qui est présente dans les Alpes et qui parfois en fait passe dans le massif du Jura et la Franche-Comté pour aller dans les Vosges par exemple. Moralité, eh ben, quand ça ressemble à un loup, souvent c'est un loup. Hein.
Bah, c'est tellement logique tout ce suspense pour ça. Allez, on termine ce tour d'horizon des infos de nos belles régions en Gironde à Bordeaux.
Oui, peut-être vous avez entendu parler du possible rachat du club des Girondins de Bordeaux. J'en parle parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du fromage et à Bordeaux un très bel élevage de chèvres hein, dans la bergerie du Matmut Atlantique. Eh bien, le groupe M6, qui est propriétaire du club, serait en train de négocier avec un fonds d'investissement américain qui serait, selon plusieurs sources, prêt à mettre 70 millions d'euros sur la table.
Ouais.
Eh ben, si ça se fait, bon courage, les manes. Parce que les bons pieds à Bordeaux, c'est dans les vignes. Hein. Hein, c'est pas de Préville. Ça n'a rien à voir.
D'accord. C'est vrai qu'ils font pas une saison de ouf, hein, à Bordeaux. On va pas se mentir. Alexandre, ce serait bien que Bordeaux se fasse racheter, non?
Oui, mais après, si ça se finit comme Lille, c'est problématique.
Ça, c'est vrai, faut faire attention aussi.
Le dernier club qui a été acheté par un fonds d'investissement américain, ça s'appelait Paris Saint-Germain de Colony Capital.
Ça dit quelque chose.
Et c'est pas... Il y avait Pierre Alain Froh.
C'est pas un très très bon souvenir.
Il y a McCourt à l'OM aussi, c'est américain.
McCourt à l'OM, c'est américain.
Bon. C'est vrai, mais il est dans une logique quand même de plus de mécénat qu'un fonds
d'investissement. Calmez-vous les gars, on va parler ballon. Vous inquiétez pas, on va parler ballon. Merci beaucoup, Guérin. 13-22 sur Move.
13h, 13h30.
Move très actuel. Move.
Alex Nassar.
L'inside de Move très actu, tous les jours un reportage en immersion. Comment ça va, Sonia?
Ça va très bien.
Alors aujourd'hui, changement d'ambiance, tu nous emmènes au théâtre.
Complètement, je vous emmène au théâtre Dunois, c'est dans le 13e arrondissement de Paris et c'est un théâtre où les pièces qui sont jouées, eh bien, elles s'adressent spécifiquement aux enfants, aux collégiens et aux lycéens. Il y a beaucoup de classes qui viennent en semaine assister au spectacle. C'est ce que m'a expliqué à l'accueil Julie Geoffrin.
On a un système d'invitation. Une fois qu'ils sont venus avec leur classe, ils peuvent revenir avec des amis, avec un tarif réduit. Et puis on accueille aussi des collégiens par d'autres biais. Par exemple, on a un groupe du collège Elsa Triolet qui vient faire des vidéos YouTube ici. Et donc, ils filment une vidéo par mois environ. Voilà, ils s'appellent Les Pocos. On parle de théâtre.
Alors vraiment, allez jeter un coup d'œil, hein, c'est vraiment très cool. Leur première vidéo, eh bien, elle est consacrée aux spectateurs relous.
Vaste sujet.
Complètement. Ouais.
Et toi, t'as été voir quoi du coup?
Ce week-end, j'ai vu la pièce Pourquoi les riches? Alors l'histoire de cette pièce, c'est la rencontre entre Puissance, c'est le personnage qui dirige le pays, d'accord, et Castor, une ado méritante, c'est-à-dire pas très riche, mais qui a des bonnes notes. Et petit à petit, eh bien, Castor va comprendre comment fonctionne la société. Cette pièce, elle est librement adaptée d'un livre des sociologues Monique et Michel Pinson. Son titre, tout un programme, hein, Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres.
C'est une fiction, parce que Puissance et Castor, c'est pas des prénoms non plus.
C'est pas archi répandu.
C'est pas dans le calendrier des télécoms.
Voilà, c'est pas dans le calendrier. Pardon, Sonia.
Ouais, je pense que vraiment ce titre du livre des Michel et Monique Pinson-Charlot vous donne déjà le ton. Hein. C'est Stéphane Gornikowski qui a décidé d'adapter ce livre.
On a rajouté, nous, des éléments d'information assez récents, enfin des études, des résultats d'études. Par exemple, le fait qu'en France, même si on parle pas d'un pays qui est la France, mais ça y ressemble, en France, voilà, quand on fait partie des hommes les 5% les plus riches, on vit 13 ans de plus que les 5% les plus pauvres.
Ah ouais. Alors cette pièce, hein, elle parle de l'accroissement des inégalités, des mécanismes de reproduction sociale, avec pour message simple, hein, mais nécessaire à rappeler, que non, les injustices et les inégalités, ce n'est pas normal. Et pour nourrir ce spectacle, hein, les équipes ont été et vont continuer à aller à la rencontre de collégiens. Des vidéos tournées avec eux sont même intégrées au spectacle.
On est au moins à 15 interviews de jeunes de classe populaire, Parmi les choses qui nous ont marqué, c'est aucun ne se définissait comme pauvre, en fait. Leur réaction habituelle, c'était plutôt de se dire « bah non, moi je suis normal, quoi ». Normal dans des quartiers qui sont vraiment objectivement pauvres. Sur cette base-là, il est difficile aussi de contester peut-être ou de se re-questionner un ordre établi. Donc, si on commence à se rendre compte qu'en fait, on est dans une situation difficile ou que nos parents vivent des situations difficiles avec peu de moyens, bah, peut-être que ça peut donner envie aussi d'essayer de dépasser ça et d'améliorer son propre sort, quoi.
Ouais, et s'il y a des gens de plus en plus pauvres, il y a des gens de plus en plus riches.
Ouais, c'est ce que symbolise dans la pièce notamment Jeff, un grand patron dont la voix est portée par un drone, parce que oui, il est bien trop occupé pour se déplacer lui-même.
Mon grand-père a réussi, mon père a réussi. Ils m'ont transmis le gène de la réussite et j'ai réussi. Ceux qui ont besoin de solidarité sont faibles. Et pour rester riches, nous devons nous séparer des faibles.
En fait, les inégalités se créent dès la naissance. Enfin, tout le monde ne démarre pas du même endroit. Ça semblait important pour nous que les enfants ou que les ados soient informés des contraintes ou des facilités qu'ils vont avoir dans la vie. Qu'ils sachent aussi comment, s'ils ont envie de progresser dans la société, ben, qu'est-ce qu'il faut savoir acquérir comme ressources, quoi. La culture, le savoir, les relations avec plein de gens.
Et il y a aussi la question du service public dans cette pièce. En quoi ça permet, bien, finalement, de contenir un peu les inégalités en France, avec l'école gratuite pour tous, la sécurité sociale, ben, qui permet de se faire soigner, qu'on soit riche ou non.
Ah oui, quand même, du coup, ça va dans du technique, quoi.
Ouais, ouais, mais c'est mis en scène de façon à ce que ce soit vraiment hyper accessible. Et d'ailleurs, ben, ça interroge les plus jeunes spectateurs. Hein, après une représentation, il y a toujours un temps d'échange avec le public. Tendez l'oreille.
Tu avais une question ou une remarque?
Est-ce qu'il y a sociétés qui ont ce système de les riches écrasent les pauvres?
Alors, à votre avis, est-ce que ça existe vraiment une société où les riches écrasent les pauvres?
Bien sûr que non.
Non.
Absolument pas. Bah oui, j'ai bien peur que ça existe, Sonia. D'ailleurs, on peut faire facilement un parallèle, hein, entre la société et le foot, les clubs riches qui écrasent les pauvres.
Tout à
pas,
fait.
Alexandre, on est bien d'accord.
Bah, la mondialisation a malheureusement prolétarisé la classe moyenne.
Bah oui, c'est voilà. Très bien, très bon résumé. Alors, pourquoi les riches? C'est en ce moment au Théâtre Dunois. Toutes les infos sur move.fr et sur move.fr aussi, la version vidéo de ton reportage. Merci Sonia. 13h27 sur Move.
13h, 13h30.
Move très actu. Move. Alex Nassar.
Le trash talk de Move très actu, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport. Aujourd'hui, Greg, comme prévu, tu t'intéresses au livre PSG Révélation d'une révolution, coécrit par notre invité Alexandre Coupet.
Ouais, c'est dispo depuis aujourd'hui aux éditions Amphora, presque 500 pages intégralement dédiées aux coulisses du club de la capitale, un livre très attendu. Mm-hmm. D'ailleurs, il est déjà numéro 1 partout sur Amazon, sur le site de la FNAC, il est même en rupture de stock, non, je crois.
C'est ça, oui.
Il est déjà en rupture de stock. Vous l'avez tiré à combien d'exemplaires du coup?
20 000,
donc il va falloir en refaire. Tout est parti. Hein.
Voilà, il y a une réimpression qui commence. Ouais.
Et ça met pas une grosse pression, cette grosse attente autour du livre?
Non, au contraire, c'est parfait. Ça veut dire que après la popularité du PSG fait qu'il y a beaucoup d'attentes, donc c'est logique.
On va pas résumer le livre ici, c'est impossible. Le point de départ, c'est la remontada du 8 mars 2017 face au Barça. C'est le moment où la direction du PSG décide en fait de changer de stratégie et de déclencher sa révolution.
Oui, bah le but, c'était après le match catastrophique à Barcelone qui rentre quand même dans l'histoire. Le but était vraiment de changer et de provoquer une sorte de révolution, parce que le Qatar n'acceptait plus de se faire humilier comme ça. Et donc le transfert de Neymar a très vite été acté par le Paris Saint-Germain.
Et on l'a vu, ça a marché avec le match contre Madrid. Vas-y Greg.
Il y a énormément d'infos et d'anecdotes dedans. On a noté quelques trucs pendant la lecture et on vérifie donc avec toi si on a bien tout compris. Est-ce que t'es prêt? C'est bon?
Vas-y.
Bien. Alors tous les joueurs du PSG ou presque fument la chicha déjà?
Ouais, alors ça c'est pas que lié au PSG, c'est lié malheureusement à tous les clubs français. Après le problème c'est que le PSG est un club qui vise la Ligue des Champions et malheureusement le foot devient une activité de plus en plus kilométrique. Et à partir de là, la chicha peut être un problème.
Dans le livre, il y a justement, tu prends comme référence le match contre Manchester City.
Ouais, tout à fait.
Je crois que les joueurs de City sur le match retour avaient parcouru genre 120 km.
Exactement.
Et ceux du PSG, moins de 100. Et ce qui, évidemment, au niveau athlétique, fait une différence.
Bien
alors,
sûr.
C'est pas dû que à la chicha.
Voilà, c'est pas dû qu'à ça, mais on peut pas dire que la chicha aide les poumons.
Non, on est d'accord. Voilà.
Et qui sont les membres du FC Chicha?
Oh, bon, on les connaît déjà. Il y a quoi? Rabiot, Kurzawa.
Malheureusement, tous les joueurs quasiment fument la chicha. Mais c'est pas que lié au PSG. Tous les clubs français sont. Mais
je crois que Rabiot, il est matrixé un peu.
Rabiot, il est matrixé. La chicha.
Le transfert de Neymar au PSG, évidemment, vous en parlez beaucoup. Il était déjà bouclé fin juin, alors qu'il a été signé le 4 août. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi ça n'a pas été officialisé avant?
parce que parce que ça a mis un peu de temps, puis il y a eu toute une comédie au mois de juillet
mais le Cequeda de la fameuse photo de Gérard Piqué postée sur les réseaux qui annonce que Neymar reste, c'est du bullshit.
Non, parce que lui il le croit.
Lui il le croit, mais Neymar il le sait déjà.
Mais Neymar sait déjà qu'il va signer au PSG.
C'est encore meilleur de savoir ça.
Et c'est Neymar qui a demandé à son père de contacter le PSG, c'est ça?
Bah le ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi Neymar en 2016 ne signe pas au PSG et pourquoi Neymar en 2017 signe. Et en l'occurrence, l'arrivée dans le jeu d'un agent comme Pini Zahavi a changé la donne.
Alors lui, c'est un super agent, on peut pas vous décrire ici, on a hélas pas le temps, mais c'est très bien expliqué dans le bouquin. C'est Mister Fixit, c'est le monsieur qui répare tout dans le monde des transferts. Quand on a un problème de transfert, on l'appelle comme le mec
il ressemble un peu à monsieur Wolf dans Pulp Fiction
et tac, il te règle le problème. Voilà. Imagine Pini Zahavi.
Une grosse commission à côté.
Et d'ailleurs, c'est Zahavi qui a permis de faire Mbappé, mais aussi Neymar, mais aussi Mbappé.
Il est dans le coup, ouais.
D'accord. Ok, vas-y, Greg.
On apprend aussi dans le livre que Nicolas Sarkozy a joué un rôle actif dans le transfert de Neymar.
Bah, Nicolas Sarkozy, il a quand même permis au Qatar de racheter le Paris Saint-Germain. Donc, forcément, il est très lié aux activités. Aux activités du PSG, oui.
Non, mais on apprend qu'il y a carrément que ça va dealer au ministère du budget pour des taxes, pour. Faites pas gaffe au montage financier, on verra ça plus tard, c'est un peu ça. Hein.
Il y a eu un geste du gouvernement pour aider le PSG. Bah, la fiscalité est tellement élevée en France que si vous voulez rivaliser avec les plus grands clubs européens, vous avez besoin d'un petit peu d'aide et c'est ce qui s'est passé, ouais.
D'accord.
Mbappé a choisi le PSG aussi plutôt que le Real, puisqu'il était aussi sur les deux coups. Et il a pris sa décision avant que Neymar signe, c'est ça?
Il a pris sa décision après un match amical contre Fenerbahçe, où là, Monaco lui a expliqué en gros qu'ils allaient vendre le joueur parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et donc, Mbappé, lui, veut rester en France et à partir de là, décide d'aller au PSG. Donc oui, c'était avant, enfin, c'est quasiment au même moment que Neymar, voilà.
Et ce transfert de Mbappé, c'est en mode géopolitique, hein. Ça part en Russie.
Ah, c'est incroyable.
Lisez dedans parce que c'est dingue.
C'est plusieurs dizaines de pages à chaque fois sur transfert.
Et le foot est profondément géopolitique.
Ouais. Non, mais là, parce que du coup, il y a la Russie, il y a le Qatar, mais il y a aussi l'Angleterre qui intervient à un certain niveau avec Chelsea. Non, c'est hyper intéressant.
Et on entend aussi un peu partout que le Qatar en a un peu marre de se faire marcher dessus, mais on apprend dans le livre que le Qatar ne vendra jamais le PSG. En tout cas, c'est ce que vous dites. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi vous pensez ça?
Parce que le PSG devient un actif de plus en plus important pour l'État du Qatar et aujourd'hui la popularité du club fait que il y a aucun intérêt pour eux aujourd'hui de vendre le club.
D'accord. Il y a beaucoup d'infos dans le livre, on l'a dit, mais il y a aussi des réflexions, il y a des passages, c'est un peu philosophique sur le sport français notamment et la mentalité française.
Bah, quand tu gagnes deux Coupes d'Europe sur, je crois, 244 titres depuis le début de l'histoire de la Coupe d'Europe, oui, c'est qu'il y a un problème. Oui.
Il y a eu 244 titres européens mis en jeu et la France n'en a gagné que deux, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Alors que t'es quand même la cinquième puissance mondiale.
Sachant que les Espagnols et les Italiens, eux, c'est plus une quarantaine de titres à chaque fois.
Donc le problème ne peut pas être que les dirigeants français, c'est un mot-là. C'est plus global que ça, oui.
Ouais. Mais il y a une phrase assez terrible dedans, vous dites, pour être populaire en France, il faut pas gagner.
Oui, bah c'est pas qu'une réflexion des sportifs, c'est généralement les acteurs qui réussissent à Hollywood et qui reviennent en France disent exactement la même chose. Ouais.
Donc c'est pour ça que le PSG est quand même, je n'ai pas détesté, mais en tout cas on prend un certain plaisir, les gens prennent un certain plaisir à voir le PSG se faire démonter par Barcelone ou éliminer par Madrid.
Oui, mais en même temps le PSG est un club qui devient de plus en plus populaire, notamment auprès de la jeune génération. Donc je suis pas sûr qu'il faut pas stigmatiser non plus totalement.
D'accord. Ouais.
Vous l'expliquez aussi très bien dans le livre, selon vous, le fait que le PSG soit devenu surpuissant, c'est normal parce que c'est le club de la capitale et que Paris doit avoir un club puissant. L'anomalie, c'était donc que le PSG soit faible avant l'arrivée de QSI.
Oui, je crois, oui, effectivement. Il y a une anormalité qui est plus par le passé qu'aujourd'hui, oui, parce que la France est un pays tellement centralisé que c'est normal quelque part que le club de la capitale domine, même si on peut le regretter, et d'ailleurs on le regrette quelque part, parce que c'est pas normal. Mais le Paris Saint-Germain d'avant, avant le Qatar, c'est deux titres de champion de France. Ce qui est quand même très faible par rapport au fait que la France est malheureusement écrasée par Paris.
Sans parler aussi de tous les joueurs qui ont été formés à Paris et en région parisienne, qui n'ont jamais mis les pieds au PSG. Et il y en a une
tripotée.
Une armée, des Thierry Henry, des mecs comme ça, quoi.
Ouais.
L'anomalie aussi, c'est qu'il n'y ait qu'un club à Paris. Alors que toutes les capitales européennes, il y en a plusieurs.
Oui, mais c'est pas que lié à Paris, parce qu'il n'y a pas non plus deux clubs à Marseille, il n'y a pas non plus deux clubs à Lyon. Et quand tu regardes dans les autres pays, en Angleterre, vous avez deux clubs à Liverpool, vous avez deux clubs à Manchester, vous avez deux clubs à Madrid, vous avez deux clubs à Barcelone. Mais oui, bien entendu que Paris, c'est totalement anormal qu'il n'y ait qu'un club de haut niveau. Oui.
Le livre parle aussi beaucoup de l'équipe et de la rivalité entre le journal et le PSG. Pour toi, Alexandre, le problème, c'est surtout que l'équipe n'a pas de concurrent en France.
Comme le PSG.
Ouais,
à Paris.
Oui, ils disposent d'un monopole qui n'est jamais remis en question. Donc effectivement, c'est quelque chose qui pose problème. Oui.
Mais en quoi est-ce que ça pose problème ?
Après, c'est pas un livre de règlement de compte contre l'équipe.
Non, mais en quoi est-ce que ton analyse, le fait qu'il n'y ait qu'un seul journal, pose problème pour le foot ?
Pour le foot français ?
Mmh.
Je pense que le problème, c'est que le quand tu disposes de privilèges comme peut l'avoir l'équipe, avec le temps, tu es plus intéressé par tes privilèges que par l'information.
Dernière question pour terminer, la plus importante pour moi.
Vas-y.
Le prochain coach, c'est qui ? Parce qu'on entend parler de tout, de n'importe quoi. Tu as l'info, je le sais. Alors dis-le-moi.
Non, j'ai pas l'info. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a une guerre d'influence dans le club qui fait qu'aujourd'hui, on peut pas savoir quel sera l'entraîneur. Mais un joueur comme Neymar aura forcément son mot à dire.
Donc Luis Enrique.
Non,
pas que ce sera pas compté.
Normalement, ce sera pas compté.
Ça sera Tite, le sélectionneur du Brésil.
Ou Tite, le sélectionneur du Brésil.
Ça peut être Tite, oui. En tout cas, Neymar est privilégié cette piste.
Bon, on suivra ça de près. Merci Alexandre Coupé d'être passé nous voir. Un PSG, révélation d'une révolution, le livre de Paris United. C'est dispo partout, aux éditions Amphora, librairie, Fnac, Amazon. Et il y a déjà un épisode 2 qui est annoncé pour octobre prochain, c'est bien
exactement,
ça?
Exactement, vers une suite.
Bah, tu reviendras du coup, hein.
Voilà, tu reviendras.
T'es obligé. Merci à toute la team Move 13 Actu.